Nous continuons avec les paraboles. Les paraboles dans l'évangile selon Matthieu. Et aujourd'hui, nous verrons ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la parabole des 10 vierges. Ou alors des 10 jeunes filles. Et dans tout ce que je m'apprête à vous dire ce matin, il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez. Peut-être que vous pouvez tout oublier après, mais retenez une chose, s'il vous plaît. Ne laissez pas la porte du royaume de Dieu se refermer sans que vous soyez préparés. Ne laissez pas la porte du royaume des cieux se refermer sans que vous vous y soyez préparés. Dans nos milieux chrétiens, on a souvent parlé de l'imminence du retour de Jésus. Et l'imminence, bon, c'est un gros mot qui veut surtout dire ce qui peut se produire à tout moment. On ne sait pas quand, mais à tout moment, ça peut se produire. Et donc, l'imminence du retour de Jésus veut dire qu'il peut revenir à tout moment. De nombreux textes bibliques nous confortent dans l'idée d'un retour proche du Seigneur et le fait que nous devions l'attendre ardemment. Jacques, par exemple, nous exhorte « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. » Et puis l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, 20, 10, 22, 10, plutôt, insiste sur la proximité de ce moment. Cependant, beaucoup se demandent aujourd'hui encore si ce retour, tellement longtemps annoncé, arrivera vraiment. Depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on dit que le Seigneur vient bientôt, il est où le Seigneur? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, oui. Vous dites que le Seigneur va revenir bientôt, il revient. 2000 ans que vous en parlez, il est où, votre Seigneur? Et on continue à dire que le Seigneur, Jésus, revient bientôt. Jésus lui-même a parlé de l'imminence de son retour à plusieurs reprises pendant son ministère terrestre. L'un de ces moments nous est offert justement dans cette parabole du chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Et je nous la soumets à notre méditation ce matin. Alors je vous invite à lire ce texte, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Vous êtes là. Je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ou 10 jeunes filles, selon vos traductions, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, ou 5 insensés et 5 avisés. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans deux vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Alors, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Personne ne sait ni le jour ni l'heure de l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour sûr, il viendra. Il reviendra, comme il l'a promis. Et nous savons bien que notre Seigneur Jésus-Christ tient ses promesses. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, si. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je lui demande, parce qu'il répond. Il répond. Et la question qui se pose est celle-là. Qu'y a-t-il dans cette scène de mariage que Jésus veut nous faire comprendre en ce qui concerne sa deuxième venue? Et en réponse à cette question, je crois qu'à travers cette parabole, Jésus voulait que les disciples soient conscients d'au moins trois choses. En tout cas, trois choses que moi j'ai repérées dans le texte, et il me semble que ces trois choses-là, Jésus veut attirer l'attention des disciples là-dessus. La première chose, c'est le caractère imprévisible de son retour. Il revient, mais personne ne sait quand. La deuxième chose, c'est le fait que même s'il est imprévisible, nous sommes exhortés à nous y préparer. Surtout parce qu'il est imprévisible, ce retour. Et troisièmement, je crois que Jésus nous laisse entendre que l'impression de retard que nous avons concernant son retour n'est autre qu'un moyen de nous éprouver, un moyen de nous émonder, une mise à l'épreuve de tous ceux qui prétendent vouloir participer aux noces de l'époux. Alors je commencerai par le retour imprévisible. Et avant d'aller plus loin, je dois vous dire que j'ai beaucoup lutté avec ce texte. Je me suis battu jusqu'à très tard hier soir avec ce texte. Lutter pour en comprendre le sens et le message que Jésus voulait vraiment communiquer à ses disciples. En lisant, relisant, re-relisant, j'ai été troublé à plusieurs reprises. D'une part, parce que si on cherche à expliquer tous les éléments de la parabole, on est mal. On n'y arrive pas. Il faut expliquer ce que veut dire la lampe, ce que veut dire l'huile, que veut dire l'assoupissement et l'endormissement des filles. Et la traduction de ce mot, parthénos en grec, qui veut tantôt dire jeune fille, tantôt dire vierge. Alors s'il est question de vierge, pourquoi est-ce qu'on en fait mention? S'il s'agit de filles, pourquoi pas des jeunes garçons? Pourquoi des jeunes filles? Je n'ai pas trouvé de réponse à cela. D'autres questions ont été plus abordables à mon sens. Par exemple, Jésus qui endosse le rôle de l'époux. Et c'est des choses qu'il a déjà faites, notamment en Matthieu chapitre 7. Il se présente comme l'époux. Et ce qui étonne, c'est que d'habitude, c'est Dieu qui se présente comme l'époux. Et son épouse est Israël. D'autre part, il est question de 10 jeunes filles, 10 vierges, si vous voulez. Que faire avec le nombre 10 ici? Parce qu'il est important, il me semble, dans le contexte biblique, le nombre 10 symbolise généralement... Ah, vous ne savez pas, hein? Oui. Alors, les 10 commandements, c'est une particularité, mais il n'y a pas que 10 commandements, hein? Il y a plein d'autres choses. Il y a des 10 plaies d'Égypte, il y a un tas de 10 dans la Bible. qui renvoie à la complétude, la totalité, l'entièreté. Et donc, lorsque Jésus parle de 10 vierges ou de 10 jeunes filles, il veut dire là que tout le monde est concerné par son retour. Tous nous sommes concernés par le retour de Jésus-Christ. Toute l'humanité. Je ne sais pas si vous faites la même chose que mon épouse lorsqu'elle regarde un film à la télé, lorsque au début le narrateur pose le cadre, il pose le décor, il présente les personnages, tout semble aller pour le mieux, et mon épouse qui dit « Quand est-ce que les choses vont aller mal ?» Parce qu'il y a forcément un moment dans le film où les choses vont mal. Il faut bien ça, il faut bien une intrigue pour qu'il y ait film. Et dans notre texte, ce moment arrive au verset 5, lorsque Jésus dit que l'époux tardait à arriver. Suspense, tout d'un coup. Jusque-là, tout allait bien, on nous présente les filles, 10 vierges, elles ont leurs lampes, elles arrivent à un mariage, mais l'époux tarde à arriver. Tout le monde attendait l'époux, il n'arrive pas. On ne sait pas pourquoi. Mais la conséquence pour les personnes dans la parabole, c'est que on s'endort. On ne sait pas à quel moment il arrive, mais on s'endort. Et Jésus, il me semble, indique ici que malgré l'imminence de son retour, cette deuxième venue allait prendre du temps. Ce qui est parfois un décalage avec notre discours habituel. On parle d'imminence, oui, Jésus vient bientôt, mais ici, il avertit. Mon retour risque de prendre du temps. Et il me semble qu'au fil de l'histoire de l'Église, on a occulté cette parabole. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai lutté avec cette parabole. Parce qu'il était coutumier chez moi de dire aussi que Jésus revient bientôt. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'imminence de Jésus. Il revient bientôt. Mais là, il dit, je reviens bientôt, mais ça risque de prendre du temps. Gros paradoxe, n'est-ce pas? Bientôt, mais ça va prendre du temps. Dans Matthieu 24, Jésus disait que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni les cieux, ni le Fils, mais seul le Père sait. Ce retard posait déjà problème à l'époque de Matthieu, lui qui écrivait cet évangile. Comment une venue imminente pouvait être si longuement différée? L'Église primitive a vécu cette annonce de façon étrange. Je ne sais pas si vous avez lu cette section de l'évangile où, pensant que Jésus revenait bientôt, qu'est-ce que les gens ont commencé à faire, les croyants ont commencé à faire dans l'Église primitive? Ben, ils ont commencé à ne plus vouloir travailler, ne plus vouloir se marier, avoir des enfants, parce que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'on a à faire avec une femme et des enfants? Pourquoi aller travailler? Jésus revient bientôt. C'est pas la peine. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Nous aussi, on a réagi de façon bizarre à cette annonce. Mais là, Jésus dit, ça risque de prendre du temps. Et Jésus semble mettre en garde ici contre toute tentative d'invoquer, par exemple, le retard ou son retard. Et je n'ai même pas envie de parler de retard. De notre point de vue, ça peut paraître du retard. Mais Jésus sait pourquoi, lui, il tarde à venir. Le frère vient de dire dans sa prière que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que s'il était déjà arrivé, ou s'il était arrivé il y a 46 ans, je ne serais pas né. Je ne pourrais pas aller au ciel. Je ne pourrais pas connaître cette vie d'abondance. Je n'aurais pas connu l'éternité. Et nombreux d'entre nous également. Aucune excuse ne saurait être toléré puisqu'il nous prévient déjà que son retour va tarder. Et donc cette parabole nous invite à considérer ce délai très sérieusement. Ce retard, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est le temps de l'Église, portée par l'espérance de son retour. Et si Jésus vient bientôt, ce ne sera pas forcément pour tout de suite. Si nous sommes réunis ce matin, c'est bien parce que nous attendons l'époux. Cependant, on ne peut pas le prévoir, ce retour. Il est imprévisible, ce retour. Et ça nous oblige, d'une certaine manière. Le verset 13, qui fait écho au chapitre 24, verset 13, nous exhorte à veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Je viens bientôt, certes, je vais venir, mais ça risque de prendre du temps. Et comme ça risque de prendre du temps, et que vous ne savez pas quand, veillez. Deuxièmement, en nous invitant à considérer avec sérieux l'imprévisibilité découlant de cette longue attente du retour de Jésus, la parabole nous invite aussi sérieusement à nous préparer à ce retour imminent. Et dans notre parabole, très rapidement, deux groupes se distinguent. À mesure que Jésus plante le décor de la parabole, nous avons affaire à cinq vierges folles, cinq vierges avisées. Dans la version Sommer, il est dit cinq insensés, cinq avisés. Vous devez avoir folle et sage. Mais en parlant de folle et de sage, Jésus nous renvoie à des catégories de l'Ancien Testament et en particulier du livre de Proverbes, où tout le livre nous fait étalage de ce qui est une personne folle et une personne sage. Qu'est-ce donc une personne sage? Qu'est-ce qu'une personne folle? Selon le livre des Proverbes, le sage, ou la folle d'abord, ou le fou, c'est celui qui néglige les avertissements qui lui sont faits. Le fou, c'est celui qui, en face de la révélation divine, la refuse, ou en tout cas refuse d'y conformer sa vie. C'est ça le fou, dans le livre des Proverbes, ou la folle. Le sage, c'est tout le contraire. Lui, il craint Dieu. Il reçoit la parole et il l'applique. Il le met en pratique dans sa vie. C'est ça le sage, selon le livre des Proverbes. Une personne sage, c'est une personne qui a du respect pour Dieu et qui obéit à sa parole. Alors pourquoi taxer ces cinq filles de folles, d'insensées? Quand on lit la parabole, rien ne distingue ces filles dans un premier temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, le narrateur pose le décor, tout semble nickel, il n'y a rien qui dépasse, rien qui distingue les filles sages des filles folles. Tous doivent être habillés pareil, tous ont la même lampe, tous ont la même ou le même enthousiasme pour aller à la cérémonie, semble-t-il, participer à ce festin des noces. Même l'assoupissement, on ne peut même pas tirer à boulet de canon sur eux, parce que même l'assoupissement, l'endormissement est partagé par les dix vierges, et les jeunes folles, et les jeunes filles sages. Tous sont endormis. Alors qu'est-ce qui les distingue? La seule chose qui pose problème dans l'histoire, c'est que les jeunes filles qualifiées de folles se sont trouvées coupables de manque de provision d'huile. elles se sont ramenées aux noces de la personne sans prévoir de l'huile. C'est le seul problème dans notre histoire. Pourtant, le retard du marié n'était pas quelque chose d'exceptionnel et ces filles-là auraient dû savoir ou auraient dû prévoir l'éventualité d'un retard. C'était d'usage à leur époque. Alors, si vous vous rappelez de la parabole des noces, un peu plus tôt qu'on a vu, on lançait des invitations pour des noces, mais on ne savait pas quel jour. Et le jour des préparatifs, le maître envoyait un serviteur pour dire « C'est prêt, venez !» Les jeunes filles auraient dû savoir ou auraient dû prévoir l'éventualité. Mais elles ont joué les folles, justement. Alors à ces noces-là, sans prévision d'huile, sans prévoir. Ces cinq filles ont agi sans réflexion, sans considération pour les noces de l'époux. Peut-être qu'elles avaient une idée bien à elles quant à l'heure du retour de l'époux. Et vous savez, on aime bien faire ça, on aime... Ça ne va pas commencer à l'heure. Ça ne vous est jamais arrivé? Nous sommes invités à un mariage, on a reçu une carte, on nous dit le mariage est à 14 heures. À 15 heures, nous sommes encore à la maison, ça ne va pas commencer à l'heure. Je connais l'Antillais. Ou je connais l'Afrique. À mon ancienne église, on parlait d'heure camerounaise. Ça ne va pas commencer à l'heure. Mais les cinq vierges folles ont réagi de manière irréfléchie. Par là, elles ont montré un manque de préparation sérieuse. Elles ne se sont pas montrées à la hauteur de l'événement des noces. Et peut-être que ces jeunes filles faisaient semblant après tout, jouant aux hypocrites, prétendant être des amies du marié alors qu'elles n'en étaient pas. Parce que si on est vraiment ami du marié, on fait gaffe à ces choses-là. On veut être avec le marié. On veut participer aux noces. Et on fait tout ce qu'il faut pour en être. Et vous savez, depuis toujours, il y a eu des imitateurs habiles et malicieux pour singer la foi chrétienne. Des personnes qui imitent à la perfection l'authenticité d'une expérience de la régénération. Des gens qui viennent au culte, à l'église, en études, comme vous et moi, avec leur Bible sous leurs bras, prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Et on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas voir dans le cœur des gens. D'où la parabole du blé de l'ivraie. Laissez-les venir, laissez-les pousser. Au moment opportun, Dieu fera le tri. La mention de telles personnes, des personnes comme Judas Iscariote, qui a fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ, mais dont Jésus a dit de lui qu'il était un diable. Des personnes comme Simon le magicien, qui voulait cette puissance qu'avaient les disciples pour chasser les démons. Des personnes comme Ananias et Saphira, qui ont vendu leur terrain pour une certaine somme d'argent et qui viennent devant les disciples parce que les copains ont fait pareil. Nous aussi, on fait pareil, mais on ment derrière, on cache une partie de la somme et puis on dit aux disciples, on a vendu le terrain pour telle somme. Et on en voit tous les jours des personnes comme ça. Aujourd'hui, cette parabole nous invite à nous interroger sur nos prétentions à nous à participer aux noces de l'époux. Sommes-nous prêts, comme les jeunes filles avisées étaient prêtes? Jusqu'au dernier moment, ces jeunes filles insensées avaient l'air de parfaites amies de l'époux, attendant elles aussi à son arrivée avec leurs lampes, leurs belles robes. On ne pouvait pas les distinguer, jugeant seulement sur l'apparence, on ne peut pas voir si elles sont folles, si elles sont sages. De même, entre les mauvais croyants et les vrais croyants et les faux croyants, il n'est pas facile de distinguer. Si on imite les choses à la perfection, il n'est pas facile de trancher. Si on imite les choses à la perfection, les uns et les autres peuvent se conduire d'une façon sensiblement analogue. Les faux croyants ne sont pas forcément des malfaiteurs. Les vrais croyants ne sont pas forcément de parfaits modèles de vertu. Mais les uns et les autres, il y a une distance qui nous sépare. Et parfois, c'est seul Dieu qui peut évaluer cette distance et qui peut la repérer. Au moment de l'arrivée de l'époux, les jeunes filles folles se sont dévoilées telles qu'elles étaient en réalité, inconséquentes, éloignées de la pensée du Seigneur. L'événement du retour du Christ marquera une séparation tragique, malheureusement. Malheureusement. Personne ne pourra compter les uns sur les autres. C'est ce que marque le refus des jeunes filles sages en refusant de céder leur huile. Il n'y aura pas assez pour moi. Je ne peux pas te donner mon huile. Et c'est pour ça aussi que j'ai refusé, dans mes recherches ou dans ce que j'étudiais le texte, d'identifier l'huile à l'esprit comme on a l'habitude de le faire. Pouvons-nous partager le Saint-Esprit ? Non. Pouvons-nous l'acheter ? Non. Qu'est-il ? À creuser. Au final, toute agitation au dernier moment sera vaine. Comme cette inutile course nocturne chez le marchand pour trouver de l'huile, la porte était fermée. Elles ont été traitées comme des étrangers parce qu'elles n'ont pas respecté les règles de la cérémonie. Il fallait être à l'heure, il fallait avoir sa réserve. La question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous avons fait nos réserves ? Ou est-ce que nous risquons de trouver porte close lorsque Jésus reviendra ? Est-ce que nous risquons d'entendre « Je ne te connais pas ». Un retour imprévisible nous invite à être prêts pour le moment du retour de Jésus-Christ. Troisièmement, on aurait dû une attente éprouvante, alors faites attention à ce mot-là, éprouvante, qui éprouve une mise à l'épreuve. On a du mal à concilier l'imminence et l'imprévisibilité du retour de Jésus. Et on peut avoir du mal à savoir où positionner le curseur s'agissant de la conduite à tenir pendant notre attente du retour du Christ. Mais cette mise en garde que nous offre la parabole des 10 vierges doit nous préparer à ce retour imprévisible et doit nous permettre à éviter deux tentations. La tentation du désengagement, par exemple, et la tentation de l'activisme, deux opposés, qu'on retrouve dans nos églises. D'abord, la tentation du désengagement, qui pourrait guetter ceux qui ne considèrent que l'imminence du retour de Jésus, comme les disciples du premier siècle. Comme Jésus revient bientôt, ben c'est pas la peine de s'engager. Il revient bientôt. À quoi ça sert ? C'est pas la peine de se marier. C'est pas la peine d'évangéliser. On n'aura pas le temps. Jésus revient bientôt. Pourtant, dans certaines de ses lettres, Paul va exhorter les croyants à faire exactement le contraire. Oui, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller. Bien sûr que non. Il faut s'engager. Il faut agir. Il ne faut pas mettre sa vie entre parenthèses, non. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut construire si on peut. Il faut témoigner aussi. Faire des disciples partout dans le monde. Cette parabole nous dit, pas question de se laisser ou de flémarder, pensant que Jésus revient bientôt. Il faut s'investir, travailler à de bonnes relations, de bonnes ententes, témoigner de l'amour du Christ, faire fructifier ce que Jésus nous a donné, confié. Et la parabole qui suit celle-là dit exactement ce que je viens de vous dire. Avec les talents. Jésus m'en donne 5. S'il estime que c'est en ma capacité, pour travailler les 5, il m'en donne 5, je dois faire fructifier les 5. S'il m'en donne 2, je dois faire fructifier les 2. S'il m'en donne un seul, je dois faire fructifier ce seul talent pour la gloire de son nom. Afin que je puisse entendre, entre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur. C'est ça que nous voulons entendre, nous, lorsque Jésus reviendra. Pas des choses comme « je ne te connais pas ». Non. Rentre dans ma gloire. Et dans le même temps, cette parabole nous met en garde contre une autre tentation, et je l'ai mentionné tout à l'heure, celle de l'activisme. Parce qu'à bien y regarder, elle ne nous parle pas tant d'activité que de provision, de réserve d'huile. Nous avons vu que ce qui pose problème dans notre parabole, c'est le fait que les vierges folles n'ont pas pris de réserve d'huile. Et quelle en a été la conséquence? Elles se sont mises à courir partout pour en trouver, à faire un voyage inutile sur le marchand, au milieu de la nuit, pour finir par rater l'arrivée de l'époux, pour trouver porte close. Voilà que la seule véritable action de la parabole, à savoir le départ précipité des jeunes filles, est sanctionnée par le récit lui-même. Porte close, too late. Désengagement, activisme, un vrai paradoxe qui nous guette aujourd'hui encore. Et qui est une véritable mise en garde par cette parabole. Un paradoxe qui souligne le fait que finalement, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel pour le croyant n'est pas tant dans ce que nous accomplissons pour Dieu, dans les œuvres, oui, c'est bien d'en faire, mais ce n'est pas tant ce qui importe à Dieu. L'essentiel est plutôt dans ce que nous sommes devant Dieu. Sommes-nous sages ou sommes-nous fous? Sommes-nous insensés ou sommes-nous avisés? Comment est-ce que Dieu nous voit? Sommes-nous prêts à entrer dans son royaume ou pas du tout? Et donc la parabole nous fait comprendre que la longue attente que nous expérimentons dans notre marche avec Dieu n'est certainement pas un caprice de sa part, loin de là. Nous pouvons la comprendre comme une mise à l'épreuve de notre relation ou de la relation dans laquelle nous nous sommes engagés avec Dieu, une mise à l'épreuve de notre foi, une foi authentique. C'est une mise à l'épreuve du salut que Jésus-Christ nous a octroyé au prix de sa mort, de son sang versé. Et bien que son retour soit aussi certain qu'imprévisible, certain qu'imprévisible, le Seigneur nous demande de nous préparer, d'être prêts déjà. Et je veux bien croire que si nous sommes assis dans cette salle ce matin, c'est que nous avons fait ce qu'il fallait pour être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Autrement, préparons-nous. Si nous ne sommes pas prêts, préparons-nous. Vous savez, j'ai pris l'habitude de prier pour ma famille un peu éloignée, hein. J'ai pas mal de cousins, de cousines. Du côté de ma maman, ils ont une grande famille. Et parfois, je me rends compte que très peu connaissent la parole de Dieu. Pourtant, ils ont été en contact avec des gens comme moi qui leur ont dit. Et très peu, très peu, se sont donnés au Seigneur. Alors, je ne sais pas si nous serons dans un état de conscience au ciel pour avoir de la peine pour eux, mais si c'est le cas, ça me ferait de la peine que ma famille, cette partie de ma famille, ne connaisse pas Dieu. Ils doivent rester dans la punition éternelle. Nous sommes invités à être prêts et à transmettre le message afin que d'autres aussi soient prêts. Ne laissons pas la porte du royaume des cieux se fermer sans que nous y soyons préparés. Surtout pas. Amen.